Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus cet après-midi. J'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le livre des Actes, au chapitre 4 et à partir du verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. » Le contexte, nous ne l'avons pas lu, nous allons le voir ensemble pendant quelques instants. C'est le chapitre 3 du livre des Actes. On se souvient de ce passage. Pierre et Jean montent au temple. Il y a là un homme qui est malade, qui est né infirme, un homme qui connaît la maladie, la souffrance, peut-être l'incompréhension de la vie. Et alors que Pierre et Jean montent, cet homme qui était porté tous les jours, qui était mis là, qui attendait, qui faisait l'aumône, naturellement, en voyant Pierre et Jean arriver, cet homme va se tourner vers eux, espérant recevoir quelque chose. Vous connaissez, si vous êtes accoutumé à lire la parole, ce texte. C'est à ce moment précis que Pierre va dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et cet homme va être guéri. Et c'est ce que nous avons lu maintenant, c'est les conséquences. Et Pierre va prendre le temps d'expliquer cela. Ils sont arrêtés, nous l'avons lu, il y a l'incompréhension, les hommes religieux d'époque n'étaient pas du tout d'accord, ils s'inquiétaient, et Pierre ne va pas rentrer dans une discussion politique, ne va pas chercher d'explication outre mesure. Ce que Pierre va faire, c'est simplement annoncer la parole. Et Pierre, et c'est un des premiers points que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, va dire d'une manière simple, voilà, si vous voulez savoir, si vous voulez savoir, bien évidemment. Et cet après-midi, il en est ainsi, Lucas l'a présenté, Jésus ne va jamais forcer la main de quelqu'un, mais si vous voulez savoir, vous allez pouvoir comprendre, apprendre, être interpellé par l'amour de Jésus. Et Pierre va dire, voilà, c'est Jésus-Christ, c'est celui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Sous-entendu, si le miracle a été possible, si cet homme a pu être guéri, c'est parce que Jésus est vivant. Et si nous sommes là cet après-midi, ce n'est pas parce que nous adorons un Dieu qui est mort, qui est enterré, qui a existé, il fut un temps, qui est venu, il fut un temps dans le monde, mais qui aujourd'hui ne peut plus rien pour nous et pour vous. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus est vivant et qu'il a cette possibilité d'intervenir dans nos vies. Il a cette possibilité et il désire également intervenir dans chacune de nos vies, de notre existence, parce que Dieu l'a ressuscité, il a vaincu la mort, la Bible nous dit. Et la même puissance qui était là, disponible, est encore aujourd'hui disponible pour manifester peut-être dans une personne, au travers de la guérison et au travers du salut. En tout cas, nous le croyons. Nous avons un Dieu vivant et Dieu est le Dieu des vivants. Il y a ce texte qui est venu sur mon cœur et nous pouvons y faire un parallèle aisément. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Point d'interrogation. Si nous sommes aujourd'hui en vie, il est naturel et il est même nécessaire pour nous de se tourner vers le Dieu de la vie. Consulter les morts pour Dieu, c'est une abomination. Et ce texte nous enseigne que même si on décidait de franchir les limites données par Dieu, même si dans un moment de désespoir, on voudrait chercher une solution, chercher un sens, un but à notre existence, en se disant « mais peut-être il faut que j'aille voir ce genre de personne, peut-être il faut que je me tourne vers l'astrologie, vers tout ce que vous voulez, vers ces personnes qui consultent les morts », nous avons un Dieu qui est vivant et qui veut s'occuper des vivants, nous avons un sauveur vivant. Et Pierre est en train d'expliquer cela. Et Pierre veut, et la parole veut, cet après-midi, que nous puissions comprendre que la solution ne sera jamais, jamais vers la mort. La solution, je pourrais le dire comme cela cet après-midi, la solution pour notre vie, pour notre existence, ne sera jamais vers le monde. Ce sera toujours vers Dieu, vers Jésus-Christ. Le résultat de cela, le résultat du fait que Jésus soit ressuscité, que nous avons un Dieu vivant, c'est que cet homme a été guéri. Et l'exclamation de l'apôtre Pierre a été celle-ci, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ce qui nous amène à une autre question cet après-midi. Quelle est votre santé spirituelle, votre santé physique? Comment est-ce que va votre âme? Est-ce que la question de l'éternité, la question de Jésus-Christ vous a interpellé, a été réglée dans votre vie? Ou est-ce que vous ne faites que survoler cela, vous ne faites que passer en disant « on verra à plus tard ». Vous pouvez avoir une bonne santé physique, vous pouvez réussir dans beaucoup de domaines, vous pouvez expérimenter beaucoup de choses. Ce qui sera toujours le plus important, c'est la santé de votre âme et c'est votre éternité. Et au travers de ce que l'apôtre Pierre dit, il y a cette question qui nous est renvoyée. Finalement, est-ce que finalement on... À un moment donné de notre vie, on ne ressemble pas à cet homme qui était là, paralysé. Est-ce qu'à un moment donné de notre vie, on ne ressemble pas à cet homme qui était placé tous les jours devant le temple, mais qui ne rentrait jamais dans le temple, qui jamais ne pouvait et n'a pu expérimenter cette bénédiction, cette intimité avec Dieu, qui, alors qu'il était là chaque jour, voyez les autres y aller, mais lui restait toujours dehors. Et je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à vivre ainsi. Je pense que le Seigneur nous appelle à rentrer et à passer par la seule porte qui nous amènera vers la vie éternelle. Et c'est Jésus lui-même qui dira, c'est moi la porte. Et il faut passer par Jésus pour avoir la vie éternelle. Il y a une autre question. Je vous pose beaucoup de questions cet après-midi. Parce que tout ce texte, finalement, nous amène à une réalité spirituelle importante que nous devons saisir. Parce que la suite de ce que l'apôtre Pierre va dire, les explications qui vont suivre, c'est voilà, il y a eu ce miracle, Jésus est vivant, et il va aller plus loin en disant, mais finalement, voilà ce qu'il en est, c'est que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Par vous qui bâtissez. Finalement, si on comprend que Jésus est vivant, si on comprend qu'il veut intervenir, si on comprend qu'il ne veut pas qu'on reste toujours à l'extérieur du temple, le temple symbolise la présence de Dieu. Si on comprend qu'il y a d'autres choses à expérimenter, ça nous renvoie finalement à cette propre question, mais sur quoi est-ce que j'ai bâti ma vie? Sur quoi est-ce que j'ai construit depuis tant d'années, jusqu'à aujourd'hui? Sur quoi est-ce que j'ai voulu construire? Parce que la Bible est quand même assez claire, c'est que tous finalement nous bâtissons. Tous. Tous nous construisons notre vie, notre maison, notre existence, sur peut-être notre éducation, une certaine morale, ce que nous croyons bon pour nous, et c'est légitime et c'est normal. Nous peut-être construisons notre existence sur le besoin de réussir, sur le besoin de fonder un foyer, une famille, et ça va être notre seul but, parce qu'on se dit, à partir du moment où j'ai fondé ma famille, j'ai réussi. Pour d'autres, ça va être la réussite professionnelle. Ils vont se fixer ce seul et unique but, c'est de se dire, mais il faut que j'ai un bon travail, que j'arrive à gagner suffisamment d'argent, et ma maison, ma vie sera bâtie sur cela. Et on pourrait multiplier les exemples, ce qui nous amène aux fondations, aux motivations de notre cœur. Pierre est en train de dire, voilà, voilà ce que vous avez fait, aux juifs, aux sacrificateurs, on pourrait dire à ceux qui avaient la connaissance spirituelle de l'époque, il va leur dire, mais voilà, voilà ce que vous avez fait. Vous avez rejeté la pierre principale. Vous avez rejeté celui qui était nécessaire pour bâtir votre maison. Et nous, au travers de ce texte, nous devons savoir, avoir cette honnêteté de vie, de pouvoir dire, mais finalement, sur quoi est-ce que j'ai bâti? Est-ce que c'est une construction qui va durer jusqu'à l'éternité? Parce que la Bible nous dit que notre âme est éternelle. Est-ce que ma construction, la fondation va tenir au fur et à mesure des années, mon engagement va tenir, ou est-ce que c'est quelque chose d'éphémère? Est-ce que vous avez construit en vous passant de Jésus-Christ toute une partie de votre vie ou toute votre vie? Ça peut être le cas. Et cet après-midi, vous vous rendez compte que peut-être c'était pas forcément la bonne chose à faire. Il y a dans la parole de Dieu beaucoup de textes qui nous parlent de cela, du fait de bâtir, de construire. Jésus pourra même expliquer cela en disant « Mais si vous écoutez, que vous mettez en pratique mes paroles, alors vous serez semblable à des personnes qui construisent, qui bâtissent les maisons sur le roc. Mais si vous n'écoutez pas, alors vous serez semblable aux personnes qui bâtissent sur du sable, quelque chose de friable. » Et si Jésus-Christ a pu dire ça, c'est pas pour accuser, c'est pas pour condamner, mais c'est pour montrer une direction, pour que dans notre vie, ça puisse être durable, pour que nous puissions tenir jusque dans la vie éternelle. Il y a ce texte, alors je ne vous donne pas la référence parce que je l'ai noté dans une autre version, je vous la donnerai après, qui exprime ce que peut être une vie qui, finalement, construit sans Dieu. Vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort. Nous avons signé un accord avec le monde des morts, avec le monde. Quand la catastrophe arrivera, elle ne viendra pas chez nous. Beaucoup de personnes pensent cela. Beaucoup de personnes pensent que, dans leur vie, on pourra toujours s'en sortir. Peut-être ça a été votre cas. Vous pensiez que sans Dieu, vous pouvez toujours vous en sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme depuis la chute d'Adam et d'Ève, cette pensée qu'on peut y arriver sans Dieu. Quand la catastrophe arrivera, elle ne viendra pas chez nous. En effet, les mensonges sont notre abri. Ce qui est faux nous sert de cachette. Et la réponse de Dieu, ça va être ceci, « Mais la grêle emportera votre abri trompeur, l'eau inondera votre cachette, votre alliance avec la mort, avec le monde, sera brisée, votre accord avec le monde des morts ne tiendra pas, votre accord avec le monde, quand la catastrophe arrivera, elle vous écrasera. Elle passera tous les matins, le jour et la nuit. Chaque fois qu'elle passera, elle vous emportera. Quand les gens comprendront son message, ils seront morts de peur. » C'est Ésaïe 28 qui nous dit cela. Et je réfléchissais à tout cela, le fait de construire. Il y a cette réalité, c'est que dans notre existence, si nous avons décidé de construire notre vie sans Jésus-Christ, nous sommes semblables et nous sommes exprimés par ce verset, « Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Nous avons rejeté Christ, nous pensions pouvoir nous en sortir, nous avons fait un accord avec le monde, avec notre expérience, nous avons voulu expérimenter par nous-mêmes que finalement, Dieu, on peut le mettre de côté. On a pu réussir, on a pu entreprendre beaucoup de choses, mais lorsque nous nous retrouvons face à nous-mêmes, il y a cette réalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ait même conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, quand la catastrophe arrive, elle nous écrasera. On est toujours, toujours écrasé par notre péché. On est toujours écrasé par le péché. On a beau essayer de se convaincre soi-même que notre maison tient bon, on a beau essayer de remblayer ce qui s'effrite au fur et à mesure du temps, on a beau essayer de se dire « mais demain ça ira mieux », il y a quand même cette réalité, il y a quand même ce que révèle la parole, c'est que sans Jésus-Christ, on ne peut pas être libéré de notre péché. Sans Jésus-Christ, nous sommes toujours dans une alliance avec le monde. Nous sommes toujours dans cette alliance qui nous conduit vers la mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Elle passera tous les matins, le jour et la nuit. Combien de personnes est-ce qu'on rencontre qui se disent « mais j'espérais que demain ça ira mieux ». Qui s'endorment et qui redoutent la nuit parce qu'ils savent que la nuit, ils vont faire des rêves qui vont troubler leur âme, leur existence. Le matin, ils se réveillent, leur quotidien n'a pas changé. Les mêmes angoisses reviennent, jour après jour. La volonté de Dieu, et c'est le but de Dieu, l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'on soit écrasé par notre existence. Ce n'est pas qu'on se croule sous le poids de notre péché, mais c'est que nous puissions vivre cette invitation du Seigneur Jésus-Christ à venir vers lui, pour qu'il prenne notre fardeau, pour qu'il nous délivre, pour que nous puissions voir à quoi ressemble une existence qui ne va pas s'effriter, qui ne va pas s'écraser, mais qui va être dans l'épanouissement parce que nous connaissons la paix, la joie et le bonheur. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je vais placer une pierre de fondation. C'est la pierre angulaire. Qu'il fut un temps, peut-être nous avons délaissé, mis de côté, mais que cet après-midi, nous pouvons choisir de prendre pour construire, reconstruire notre vie. Je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve, une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité, nous dit Ésaïe 28, verset 16 dans la version français courant. Celui qui fait confiance en Jésus-Christ, celui qui s'abandonne, qui va vers Jésus en lui disant « Seigneur Jésus, aide-moi, secours-moi », la Bible nous dit qu'on aura la même solidité. Peut-être direz-vous cet après-midi que votre existence ressemble plus à des ruines, que vous avez vécu cela, vous pouvez dire « mais c'est intéressant, c'est bien, mais le reflet de mon existence, ce n'est pas une maison qui est sur le sable, le reflet de ma vie, c'est plus des pierres qui sont là, éparpillées, qui sont en ruine. Ça peut arriver, vous savez, que notre existence soit semblable à des ruines. Mais la Bible nous dit que Dieu a pitié de toutes nos ruines. La Bible nous dit que Jésus est venu pour rebâtir sur d'anciennes ruines, pour reconstruire notre existence, notre personnalité. Jésus n'est pas venu pour raser avec un bulldozer notre cœur, notre existence. Jésus respecte ce que nous sommes, mais son invitation, c'est que nous puissions venir vers lui. Parce que comme nous l'avons lu, il a été crucifié. Et ce n'est pas seulement les pharisiens, ce n'est pas seulement les sacrificateurs qui l'ont crucifié, mais c'est chacun d'entre nous. C'est notre péché, c'est notre orgueil. À chaque fois que nous avons voulu mettre une pierre dans notre propre maison, en refusant de prendre cette pierre angulaire, cette pierre principale, nous avons crucifié Jésus-Christ. À chaque fois que nous avons entendu le message de l'Évangile, qu'un chrétien nous a rendu témoignage, que nous avons lu la parole de Dieu, qui nous invitait à nous confier en Jésus-Christ, qui nous invitait à venir déposer nos fardeaux, à nous repentir, et que nous ne l'avons pas fait, nous crucifions Jésus-Christ. C'est nous qui avons crucifié Jésus-Christ. Mais Dieu nous dit qu'il a pitié de toutes nos ruines. Jésus a versé son sang sur le bois de la croix pour que nous puissions être reconstruits, rebâtis, pour que les choses anciennes soient passées, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie, expérimenter la grâce, expérimenter la paix, la joie, l'espérance, expérimenter la guérison, expérimenter tous les jours de notre existence cette communion intime avec le Sauveur. Dans la construction que Jésus veut nous offrir, il y a cette porte que Jésus veut placer dans notre maison, dans notre vie. On pourrait le lire ensemble. C'est le psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. » « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Ouvrez-moi les portes de la justice. » Ouvrez-moi ces portes. Qui cet après-midi peut avoir envie de vivre cela? De peut-être permettre au Seigneur Jésus-Christ de placer la clé entre nos mains pour que nous puissions crier dans notre âme, « Seigneur, ouvre-moi ces portes afin que je puisse être sauvé. Ces portes, il n'y a que les justes qui peuvent y passer. » Et la Bible nous dit que c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous justifie, qui nous fait regarder par le Père comme purifiés de tous nos péchés. On a besoin, bien-aimés, vous qui êtes là, de comprendre que il faut qu'on passe par cette porte de la justice. L'homme, cet homme, nous revenons à Actes, la Bible nous dit que ça faisait 40 ans qu'il était là. 40 ans. Pendant 40 ans, peut-être pas dans les premières années de sa vie, ça faisait 40 ans qu'il était infirme. On ne sait pas combien de temps, 20 ans, 25 ans, 30 ans. On ne sait pas depuis combien de temps il venait, on le plaçait devant cette porte. Vous savez, quelquefois on peut vivre des choses, ça peut être long, parce que notre cœur est endurci. Peut-être ça fait 20 ans, 6 mois, 3 semaines que vous entendez le message. Et que vous ne voulez pas rentrer, connaître la porte de la justice. Vous savez, Dieu est patient avec nous. Et cet après-midi, il ne veut forcer personne. Mais il y a cet amour de Dieu qui veut se manifester encore pour que nous puissions, nous, être sauvés. Parce que, comme le dit Pierre, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné pour que nous puissions être sauvés. Il y a beaucoup de choses qui se font ici-bas. Mais le seul nom, la seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux faire encore cet après-midi. Nous croyons que tu veux te manifester. Tu veux restaurer ces ruines. Tu veux nous amener à comprendre que on a besoin de cette pierre angulaire, de cette pierre principale, celle qui tient tout l'édifice, et que c'est toi qui veux tenir notre vie. Seigneur, pendant peut-être tellement de temps, nous avons voulu construire sans toi. Et Seigneur, à chaque fois, et la Bible nous le dit, ça se solde par un désastre, ça s'effrite, ça s'écroule. Cet après-midi, mon Dieu, veuille toucher quelqu'un afin qu'il puisse saisir que la seule chose dont il ait besoin dans sa vie, c'est toi. C'est de se repentir, de se convertir afin que sa vie puisse être totalement changée, bouleversée. Merci pour cette invitation. Merci parce que tu désires le faire et tu peux le faire encore. Parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Sauveur vivant et tu peux agir. Merci mon Dieu pour tout ce que tu vas faire et accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.